Autre radio, autre culture, bonjour, émission également diffusée sur audiopeople.fr. Aujourd'hui, nous recevons un chanteur, auteur-compositeur, Guillaume Aldebert, dit Aldebert. Bonjour.
Bonjour.
Alors, tu préfères que je t'appelle Guillaume ou Aldebert ?
Comme tu veux, bon, Guillaume.
Guillaume,
allez. Plus simple.
Et nous avons en sa compagnie Touf, enfin celui qu'on appelle Touf, que tout le monde connaît comme Touf, et qui est en fait Christophe Darlot. Bonjour Touf.
Bonjour.
Et qui est accordéoniste, pianiste et aussi ingénieur du son, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Multicasquette.
Et tu travailles sous ces multiples casquettes avec Guillaume ?
Avec Guillaume, oui, depuis quelques années maintenant, vu que ça va, on va bientôt fêter les 10 ans du début de carrière de Guillaume, donc ça fait déjà quelques temps, oui.
Et nous avons notre irremplaçable Christophe Bouillot.
Bonjour,
bonjour
à tous.
Christophe.
Bonjour, bonjour.
Alors j'essaye de prendre la voix la plus suave pour le faire rougir.
Non, ça va, tout va bien. Je vais peut-être poser quelques questions aujourd'hui.
Alors on assiste depuis quelques années à un retour à une certaine forme de poésie dans la chanson française. Est-ce que Guillaume, tu te sens plus chanteur ou poète ?
Oula, bah déjà dans le terme poète, je trouve que ça fait un peu pompeux de dire je me sens plus poète que chanteur. Je sais pas, moi j'écris des histoires, j'ai toujours eu besoin de faire ça. Après, je me suis posé la question de quelle façon je pourrais le faire professionnellement quand j'étais petit, quoi. Donc j'ai envisagé pas du tout de le faire dans la forme chanson. Je me voyais plus le faire dans la forme graphique, c'est-à-dire, comme mon père était dessinateur, je me voyais plus soit photographe, soit dessinateur de BD ou des choses comme ça. Je me voyais pas dans la musique parce que c'était quelque chose d'un peu fantasmé, qui me paraissait utopique et inaccessible. Et puis aussi parce que je me sentais pas avoir la personnalité d'être sur scène et de me livrer de tout ce côté-là, quoi. Donc du coup, voilà, ça s'est fait un peu par hasard, beaucoup par l'entourage et par le public, sans avoir la prétention de le faire au départ. Mais voilà, alors, comment je me place et comment je me sens aujourd'hui par rapport au métier. J'aime bien les termes d'artisan, de chansonnier, parce que c'est comme ça que je travaille depuis le début. Et avec Christophe, c'est comme ça qu'on travaille ensemble. C'est-à-dire qu'on a commencé à se produire dans les bars, à enregistrer un premier album autoproduit dans son bureau, avant d'avoir des contrats avec des maisons de disques et des tournées, des concerts et tout ça. Mais dans la façon d'appréhender le métier et de travailler et de produire, on a toujours gardé cet état d'esprit-là. Voilà, donc c'est bien parce que je pense que ça permet d'être ludique par rapport à plein de choses et c'est un métier qui peut faire un peu péter les plombs. Donc du coup, ce parcours-là permet d'avoir toujours les pieds sur terre quand il y a des crêtes et quand il y a des creux.
Quand vous passez dans le processus de création, est-ce que vous pensez la musique et vous écrivez les paroles, ou c'est le contraire, ou vous écrivez une histoire et puis vous dites « je verrai la musique après ». Comment ça se passe ?
Il y a plein de façons de faire, en fait. Moi, je suis assez sensible à la formule ou à la bulle ou à une petite phrase. Par exemple, il y a quelques semaines, là, je vois un tag sur un mur et c'était « Dis-moi qui te suis, je te dirai qui je hais ». Et je trouvais ça marrant, quoi, comme formule. Et du coup, je me dis, tiens, ça pourrait faire un chouette refrain pour une chanson sur la jalousie, par exemple. Donc voilà, ça peut être le départ d'une chanson. Et quand le thème est trouvé, je dirais que la chanson est presque déjà terminée. Après, c'est pas du remplissage, mais quand on sait de quoi on va parler et de quelle façon on va l'exprimer, le gros est fait. Mmh. C'est ça que j'ai le plus de mal à trouver, c'est-à-dire une idée, un sujet, et après, une fois que ça s'est fait, ça va assez vite, quoi. Après, dans la fabrication, dans la réalisation de la chanson, j'ai toujours la guitare avec moi. Je sais pas vraiment, c'est un peu une fusion des deux, c'est-à-dire que il y a cette phrase-là qui tombe, et puis je trouve une petite musique qui va dessus, ou alors je change complètement la musique une fois que le texte est terminé parce que ça va pas avec. Christophe, qui va un peu coacher tous les arrangements, va proposer encore d'autres choses. Donc du coup, la chanson, c'est un truc un peu vivant qui va bouger. Depuis le guitare-voix jusqu'à la production sur scène, en passant par le disque, les différents arrangements et tout ça. Et tant mieux que ça soit ça, finalement. Quand on prend une chanson de Brassens, qui peut paraître super simple au départ, mais c'est tellement bien écrit qu'on peut la décliner de plein de façons différentes. On peut la jouer même en métal, en jazz, en n'importe quel style. Et du coup, ça, je trouve ça intéressant, quoi. C'est vraiment une matière malléable, quoi.
Alors justement, vous parlez de Brassens et on apprend que votre enfance a été bercée par les chansons de Brassens. Est-ce que vous pensez avoir été influencé par lui, et si oui, de quelle manière ?
Ouais, j'ai été influencé, je l'ai senti après, juste après l'adolescence en fait, parce que moi j'ai appris la guitare plutôt avec des groupes de métal, ce qui peut paraître bizarre, mais j'ai commencé la guitare à l'adolescence vers 17-18 ans, et j'ai appris avec Metallica, Motley Crue, AC/DC, tous ces groupes-là, et j'assume aujourd'hui, même si ça peut paraître bizarre, mais. Et après, au sortir de l'adolescence, tout d'un coup, toute mon enfance musicale, tout ce paysage musical qui m'a été offert par mes parents, m'est revenu en pleine tête, quoi. C'était incroyable, quoi. Et tout d'un coup, je me sentais plus à l'aise dans la chanson que dans le métal, parce que j'étais toujours quand j'ai appris la guitare et que j'étais dans des groupes, en tant que guitariste de rock, j'étais tout le temps dans l'imitation des groupes que j'idolâtrais, quoi. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, je voulais faire Guitar Hero, quoi. C'est ça qui m'intéressait, quoi. Avoir les cheveux longs, voyager en hélicoptère et tout. Mais c'était pas moi, c'est pas ma culture, ça me ressemble pas, ça. Et j'ai pris conscience de ça vers 25 ans, quoi, où je me suis dit là. Et quand j'ai commencé à écrire des textes perso, du coup, c'est là que ça a pris un petit peu, entre guillemets, dans le sens où ça me ressemblait. Et du coup, il y avait une espèce de sincérité. Et quand on a commencé à jouer dans les bars et dans les cafés, il y a eu une espèce de. Il y a eu une mayonnaise qui a prise parce que c'était vraiment moi, tu vois. Et quand je faisais des concerts de rock, de métal et tout, ça marchait pas spécialement parce que c'était pas moi, quoi.
Après 6 albums et un DVD en 10 ans, comment regardez-vous votre carrière? Comment vous l'analysez?
Ben, l'autre fois, je discutais avec Clarica, avec qui j'ai travaillé et que je vois de temps en temps. Et puis, on se disait qu'on était des artistes en développement permanent, nous. C'est-à-dire que c'est un métier dans lequel il y a jamais un moment où on peut s'asseoir et se dire, bon, bah voilà, là, c'est bon, c'est fait et tout, quoi. Surtout quand on n'est pas, comme moi, révélé au grand public, et on n'est pas un artiste grand public. C'est-à-dire que moi, je suis un petit vendeur de disques, on va dire, et même si j'arrive à remplir des salles un peu partout en France, ça reste quand même confidentiel. Et donc, du coup, je suis toujours dans la progression et dans l'attente d'autres choses. Le fait d'arriver aujourd'hui à 10 ans de carrière, ça, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que quand on s'est retrouvé avec Christophe enregistrer des maquettes dans son bureau alors qu'il était encore étudiant, moi j'étais emploi jeune, j'ai l'impression que c'était la semaine dernière et qu'on a fait plein de choses ensemble, mais il y a encore plein de trucs à faire. Et du coup, je sais pas, j'ai plus envie de regarder devant que derrière, même si j'ai beaucoup de sujets de chansons qui traitent de l'enfance, de l'adolescence et du passé, tout ça. Et que j'aime bien aller puiser là-dedans, mais ça me fait un peu peur quand même de me dire que ça fait déjà 10 ans et tout qu'on fait ça. Ça me fait un peu flipper quand même. Ouais.
J'aime bien parler un petit peu de cette vue du futur. Que pensez-vous de ce qui se passe au niveau de la télévision, qui ont un regard toujours nostalgique de ce qui s'est passé 20, 30 ans ou 40 ans en arrière, en faisant revenir les mêmes artistes et sans se dire de manière positive, allons de l'avant, avançons. Ce genre d'émission nostalgie, les fans des années 70, les fans des années 60, les fans des années 80.
Ouais,
Qu'est-ce que...
après, je pense que c'est un peu dans la nature humaine aussi d'avoir cette espèce de nostalgie sur les choses avec lesquelles on a grandi. Et là, on assiste en ce moment à une espèce de retour aux années 80. C'est marrant, dans la mode, dans la musique aussi. Enfin, c'est assez marrant de voir cette espèce de cycle comme ça. Il y a des musiques, des styles qui, tout d'un coup, pendant 5 ans, vont être super ringards. Ça va être la honte totale de proposer tel ou tel arrangement, voire même des instruments qui sont complètement boudés, comme l'a été longuement l'accordéon avant de revenir en force
C'est vrai.
avec les Tetraed et toute la nouvelle scène au début des années 2000.
Yann Tiersen.
Et Tiersen. Et
Tiersen et compagnie, ouais.
voilà, donc il y a des tendances et on voit ça dans plein de choses, mais. C'est un truc naturel, je pense. Après, sur les émissions de télé, il y a aussi peut-être une peur de pas faire d'audience. Et c'est dur d'aller de l'avant et d'aller découvrir des choses. Moi, je sais que quand je me retrouve dans une Fnac et que je vois des choses que je connais pas, je vais pas forcément avoir le réflexe d'aller écouter, même si je me dis au fond de moi, allez, vas-y, essaie de découvrir des choses, des auteurs, des compositeurs qu'on connaît pas, dont on a entendu parler. Il faut faire un effort, en fait, quoi. Et on a besoin d'avoir un peu des valeurs sûres. Des choses avant de se dire je vais pas aller voir un film comme ça dont j'ai pas entendu parler, et si on m'a pas dit vas-y c'est hyper bien, si j'ai pas une espèce de d'encouragement comme ça. Donc je pense que c'est un truc normal, hein, mais c'est vrai qu'on est tous timides, et les télés peut-être les premières.
J'ai appris que vous étiez énormément apprécié par les enfants, d'où l'invitation au Noël de l'Élysée. Alors, comment devient-on la vedette d'une telle manifestation?
Bah, ça a été une proposition
C'était Matignon en fait, hein. C'était pas le...
Ouais, c'était le Noël du personnel, le Matignon.
Oui, du personnel, le Matignon.
Donc au départ, moi qui suis pas spécialement un artiste engagé, j'étais un peu... ça m'a un peu surpris en fait, ce truc-là. Et au départ, avec l'équipe, on s'est dit, bon non, on va pas le faire et tout. Puis après, on s'est dit qu'en fait, il y a eu deux raisons pour lesquelles on est allé faire ce concert. D'abord parce que c'était les enfants. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, parce que c'était l'Opéra Garnier. c'est vrai que ça nous a quand même vachement séduit de se dire, waouh, on va jouer là-bas. C'est quand même un truc de dingue. Et puis, on n'était pas associé à une idée politique en faisant ça.
Tout à fait, oui, bien sûr.
Donc, à partir de là, on s'est dit, voilà, on a envie de le faire. Et ouais, c'est tombé dans une période de dingue. En plus, c'était en décembre. Cette semaine-là, on a tourné le DVD, on a fait Drucker et on a fait ce concert-là. Donc, c'est une semaine un peu folle. Et c'était génial.
On devait vous recevoir cette semaine-là. Puis, bizarrement, ça va. Pu se faire. Ouais. Vous n'aviez pas beaucoup de temps.
Et du coup, ouais, c'était un super souvenir de fin d'année. C'est vrai que c'est marrant d'arriver le matin déjà pour la balance avec notre matos, notre décor qu'on voit tous les jours. Et tout d'un coup, dans ce cadre-là, avec le plafond et tout, c'est les dorures, les tableaux, c'est un truc de fou, quoi.
Le régisseur avait dit qu'il n'avait pas vu de batterie acoustique depuis 3 ans, je crois. C'est...
Ouais, ça, c'est dit.
C'est marrant. Moi, je me promène de temps en temps sur les grands boulevards et tout. Puis, arrivé devant l'opéra, je me dis... Je fais mon malin, quoi, avec mes potes. Je fais, ouais, tu vois, j'ai joué là-dedans. Là. Petite maison pour tous, sympa. MJC, Centre culturel Pablo Neruda.
Le truc. Mais ouais, justement, c'est... une représentation au Palais Garnier, qu'est-ce que cela implique au niveau du son? Est-ce que cela vous a changé énormément? Est-ce que cela vous a facilité les choses?
Ben, là, je laisserai bien la parole à Christophe, parce qu'il sera peut-être plus disposé à répondre. Au niveau son, je ne suis pas très calé.
Non, ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu, en tournée, on se déplace avec notre régie, déjà habituellement, mais sans notre diffusion. Et là, pour le coup, on est venu avec un système de diffusion bien adapté au lieu. Alors il y avait énormément de contraintes techniques vu que il y avait un balai en fait juste avant notre spectacle et tout le plateau devait être installé diffusion comprise en 14 minutes exactement. Donc ouais. Il y avait un monde fou sur le plateau, des câbles qui se branchaient dans tous les sens, c'était assez amusant. Alors après, sur l'impact du son pour nous, c'est assez minime parce qu'on est on travaille en ear monitor sur scène. Donc le son est extrêmement homogène d'une date à l'autre. En fait, on a pas beaucoup de variations.
Ça, c'est agréable. Enfin, c'est agréable. On gagne du temps. On gagne un temps incroyable de balance. On n'a pas les problèmes de résonance. Qu'on joue dans un petit café ou dans un zénith, on aura le même son. Donc ça, c'est assez confortable, c'est vrai, quoi. Après, sur l'Opéra Garnier, moi, ce qui m'a un peu déstabilisé, c'est le fait qu'il y ait une fosse d'orchestre, en fait, juste après la scène. Donc du coup, une espèce de trou. Et après, les premiers rangs, quoi. Et moi qui ai besoin d'avoir une proximité avec le public, et il y a beaucoup d'échanges, a fortiori sur Enfantillage, avec un jeune public donc qui a une énergie incroyable, c'était bizarre cette espèce de trou comme ça.
Vous avez eu de la chance qu'on ne vous demande pas de mettre les musiciens dans la fosse
et
chanteurs tout seuls sur la scène. Est-ce que vous avez délibérément créé pour un public très très jeune ?
Ça fait longtemps en fait que j'avais ce projet un peu sous le bras depuis que j'ai commencé à travailler avec des enfants entre 99 et 2004. À l'époque, j'étais emploi jeune dans une petite école primaire vers Besançon. Et du coup, voilà, j'avais envie de faire ça un jour. Après, j'ai commencé à écrire des disques qui s'inscrivaient plutôt dans un répertoire adulte. Il y a eu 4 albums avant de réaliser ce projet. Et puis en 2007, on venait de finir la tournée du précédent album, donc des Paradis Disponibles. Et là, c'était un peu le moment de le faire, entre guillemets, bien que on m'ait pas du tout encouragé à aller dans la chanson jeune public. Et c'est normal, quoi, que ça soit la maison de disques ou l'entourage. Les gens étaient un peu surpris et flippaient pas mal, quoi. Moi le premier, c'est-à-dire que il me disait la chanson jeune public, fais gaffe, c'est un peu une niche, c'est un truc, c'est un peu une image cucu, après tu vas être identifié comme ça, ça peut être dangereux. Donc voilà, moi j'avais envie de le faire, avec Christophe ça faisait longtemps qu'on en parlait.
Il y avait des maquettes qui traînaient sur mon ordinateur depuis au moins 4
depuis
ans.
5 ans, 4 ou 5 ans, ouais. Ouais. Donc voilà.
Comment tu le gères justement, le succès de ce disque Enfantillage, parce que c'est, je sais pas si c'est ce disque qui t'a révélé, mais il a fait disque d'or, je crois que vous avez été certifié disque d'or. Ce qui est quand même bien, ouais, pour les 10 ans de carrière. Et puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont connu par ce disque. Et du coup, moi, les gens que je croise, il y en a beaucoup, enfin moi le premier, qui disent « bon, c'est quand Enfantillage 2 ?» quoi.
Oui, oui, oui.
Comment tu gères ça? Est-ce que tu le...
J'étais super content parce que du coup, c'était un peu un pied de nez aux premières intentions et tout ça. Et ça a été vraiment une surprise, d'autant qu'on a pas mal flippé aussi en termes de tournée. C'est-à-dire que le disque s'est fait de façon très, très simple, très artisanale. Pour une fois, on se retrouvait les quatre musiciens ensemble autour des guitares-voix. Chacun proposait des arrangements et tout. Donc, il y avait une vraie écriture collective. Et je pense que ça a payé finalement parce que il n'y a pas eu autant de prises de tête que les albums précédents. C'est-à-dire, et pareil avec les invités. C'est-à-dire que le fait, alors je ne sais pas si c'est le fait que ça soit de la chanson jeune public qui ait amené une espèce de liberté et une espèce de spontanéité à tout ce projet, mais j'ai senti moi ce truc-là autour de ça et encore sur la tournée aujourd'hui. Et avec les invités, c'était pareil. Quand je leur ai dit, je fais un album de chansons pour enfants, ça vous dit, ça a été très rapide les décisions.
Pourquoi avoir pensé à Anne Sylvestre ou Steve Waring?
Parce que ces deux auteurs, c'était les premiers disques que j'ai eu à la maison, c'était Anne Sylvestre et Steve Waring.
Steve Waring, si je me souviens bien, quand j'étais toute petite, c'est celui qui avait chanté un truc sur les grenouilles.
Ouais, ouais, les grenouilles, voilà, ouais.
Nous sommes d'accord.
Ah, moi, les grenouilles, ça m'a marqué à vie.
Ça m'a marqué aussi.
Et ça se démode pas, moi, quand je travaillais avec les mots, mais je leur faisais écouter, ils étaient tous bouche ouverte et tout, parce que c'est un truc...
Je trouvais ça extraordinaire de faire chanter des grenouilles, quoi.
Ouais,
d'adapter les paroles à un chant de grenouille.
Ouais. Non, mais il est hyper fort, lui, c'est vraiment un type super polyvalent qui sait faire des bruitages et des imitations, plein de voix différentes, polyinstrumentiste et tout. Et du coup, de retrouver ces deux artistes 30 ans après, c'était, ouais, pour moi, c'était vachement important, quoi.
C'était assez amusant, d'ailleurs. Je me rappelle, pendant l'enregistrement des musiques d'Enfantillage, on avait envoyé pas mal d'invitations pour des duos en disant bon ben il y en aura trois qui répondront en fait.
Ouais, voilà, et sur tout le paquet, je me suis dit on aura peut-être deux ou trois.
Et t'as dû en refuser finalement? Non.
Non, mais finalement on se retrouve avec un album qui est constitué aux deux tiers de duos, quoi.
D'accord.
Alors qu'au départ c'était pas vraiment le. Et tant mieux parce que du coup il y a plein de voix, il y a plein d'univers, il y a plein de personnages et pour les enfants c'est bien justement qu'il y ait cette richesse là.
Est-ce que vous avez envie de continuer avec certains artistes de ce disque
de continuer à travailler sur d'autres projets?
Sur d'autres projets.
Ça s'est un peu proposé finalement parce que Marcel Amont, avec Christophe, on travaille sur des prochains titres pour Marcel Amont. Donc on lui a proposé des arrangements, des musiques. On travaille aussi avec Mathias, son fils, et Maxime Le Forestier qui lui a composé un titre aussi. Et donc du coup voilà, ça fait des connexions et puis après ça peut partir sur d'autres projets. Après j'ai vraiment dans l'intention de faire Enfantillage 2 d'ici 2-3 ans. Entre, il y aura un prochain album qui sera plutôt dans un répertoire adulte, mais voilà, Enfantillage 2, j'ai commencé un peu à écrire des choses. Ça sera également avec un collectif de collègues. J'ai bien envie aussi de proposer à des acteurs aussi de faire des voix ou des choses comme ça. On s'est tellement amusé dans la réalisation et dans la tournée que du coup on a vraiment envie de continuer et puis ça a bien marché, donc du coup ça serait dommage d'arrêter là. Et puis c'est très épanouissant comme projet.
Quand vous créez un disque, quand vous allez créer un disque prochainement, est-ce que vous comptez faire des ambiances un petit peu à la Genesis avec un album construit avec une introduction, une conclusion et un développement d'histoire?
Un album concept un peu?
Ouais.
Sur Enfantillage ou
Sur Enfantillage ou autre chose. Est-ce que ça vous tente?
Ouais, après je pense que c'est important d'avoir un fil conducteur sur un album, bien que maintenant le concept d'album ça soit peut-être même plus trop d'actualité parce qu'on sait pas trop, par rapport au disque et tout ça, on sait pas comment ça va évoluer. Mais
vous savez qu'il y a eu une histoire avec Pink Floyd qui a refusé qu'on mette leurs morceaux sur internet et que ça soit téléchargé parce qu'ils ont un concept justement d'album et ils ne tenaient absolument pas à ce que les chansons soient dissociées les unes des autres.
Ah ouais, ouais. Ouais, moi je suis moins à cheval là-dessus, quoi, mais je sais pas. J'ai pas vraiment eu l'idée de faire un jour un truc un peu concept comme ça, avec. Je pense à Camille qui avait fait un album avec Le Fil et tout. Moi je vois plus les albums comme des albums photos, c'est-à-dire vraiment une période d'écriture avec ce qu'on a vécu et ce qu'on a traversé pendant une période, et du coup toutes les chansons sont un peu le reflet de tout ça, donc du coup il y a une cohérence à chaque fois dans l'écriture et dans les textes, même si c'est des sujets différents. Moi je parle beaucoup de surtout dans l'enfantillage de la famille et des amis, de ces valeurs-là, de ces choses-là, et du quotidien. Et je vois, j'ai de l'habitude de travailler comme ça. Mais l'idée du concept, de l'album concept, je ne saurais pas faire ça, je pense.
Est-ce que vous pouvez devenir cynique dans vos chansons?
Peut-être, je ne sais pas. Hein. Cynique, ouais, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne pense pas, mais...
Non, pour l'instant, ça ne se voit pas du tout. C'est pour ça que je posais la question.
Ouais. Peut-être avec l'âge, hein, je ne sais pas.
On va parler de l'artiste et l'argent.
D'accord.
Est-ce que vous faites partie de ces artistes qui réinvestissent les sommes gagnées dans de nouvelles productions?
Pour ma part, non. Parce que pour l'instant, j'ai investi dans une maison. mais ça pourrait arriver. Parce que là, avec Christophe, on a un peu envie de s'investir dans la production. Nous, on a la chance d'avoir une production un peu indépendante. C'est-à-dire qu'on est chez Warner en licence. Mais on a quand même cette liberté de choisir avec qui on va travailler et dans quelles conditions on va travailler. Donc ça, c'est agréable. Et du coup, on se dit qu'on peut, vu comment le métier évolue, que ça soit en production, différents aspects, on va revenir un peu à ça finalement, quoi. C'est-à-dire, y a un côté un peu autoproduit qui, j'ai l'impression, même sur des gros, gros artistes, qui est en train de revenir. Donc du coup, nous, ça nous arrange parce qu'on a toujours un peu commencé comme ça. Et d'investir la production, on commence à le faire un petit peu finalement. Christophe, lui, il a investi beaucoup depuis le début, tout ce qui est droit d'auteur et revenus, royalties, tout ça, dans son studio. Et maintenant, il en parlera mieux que moi, mais il commence à avoir un studio vraiment conséquent.
Oui, c'est sûr que, il y a une espèce de légende urbaine qui traîne, comme quoi on pourrait faire des super albums avec juste GarageBand et puis un petit micro à 3 euros acheté au supermarché, mais on s'aperçoit assez rapidement que c'est
ça
pas
rassure,
exactement comme ça.
Rassure.
Oui, c'est pas exactement comme ça que ça marche. Ou alors sur des projets hyper typés. Particulier, spécifique, oui, ça peut peut-être marcher, mais c'est sûr qu'il faut toujours un petit peu de moyens techniques pour arriver à une qualité sonore correcte. Alors bon, je dis pas qu'on fait des choses excellentes sur les aspects techniques et sombres, enfin en tout cas d'album en album on progresse, on avance, et c'est ça qui est important. Chacun sur nos routes respectives, on essaie de gagner en qualité au fur et à mesure du temps.
Maintenant que vous avez signé dans une maison de disques depuis quelque temps, est-ce que pour vous la vie est plus facile dans le sens pour enregistrer, pour choisir vos chansons, pour choisir les musiciens, pour choisir le type de son que vous voulez?
Je pense pas que c'est un rapport vraiment avec la maison de disques.
Elle a pas la main dessus?
Non, pas du tout. C'est-à-dire que nous, on a toujours livré des produits finis. Après, ils ont leur mot à dire, évidemment. Mais on n'a pas été influencé et on n'a pas eu spécialement d'indications, de contre-indications, de se dire voilà, vous allez bosser dans tel studio parce que ça va vous donner tel type de son avec tel mec et tout. On a toujours un peu choisi avec qui on voulait bosser. Il y a une année, on a voulu travailler avec Yves Jaget parce qu'on aimait bien ce qu'il faisait avec Zazie. Et puis Christophe aimait bien son travail et tout ça. Après, sur Enfantillage, ça a été autre chose. Comme on disposait de moins de budget et qu'on savait pas trop où ça allait aller, c'était vraiment une nouvelle aventure, ce truc-là. On a travaillé ensemble dans un studio qu'on a emménagé. Après, on a fait quelques voix à Paris, au studio de la Reine. Mais c'était très simple, quoi. C'était très... on n'a pas choisi tel réal et tout, tel studio. On n'est pas allé masteriser à Los Angeles. Je pense qu'on va continuer à travailler comme ça, vraiment, quoi.
Comment se fait le choix d'un studio? Est-ce que vous travaillez ensemble? Comment ça se passe? Enfin, je veux dire, au niveau du choix du studio.
C'est plus avec la production, en fait, pour des histoires de budget, on essaie de trouver des studios qui rentrent dans le cadre du budget de l'album déjà. Puis après, c'est vraiment des histoires de gens, des histoires de personnes. L'histoire d'Albert a toujours beaucoup fonctionné sur le côté humain dès le départ. Si on regarde un peu l'historique des albums, bon, le premier c'est très artisanal, fait à la maison. Le second, on a travaillé dans un studio de Besançon, un petit studio de Besançon, l'ancien studio du groupe Les Infidèles, en fait, parce qu'on les connaissait. Alors la production pour laquelle on travaille fait beaucoup de musique antillaise, musique africaine avec Kassav notamment. Et à l'époque, Kassav, à l'époque de notre troisième album, Kassav enregistrait beaucoup à Polygone, à Toulouse. Et c'est ce qui nous a mis en fait sur cette piste. Et on était faire notre troisième album au studio Polygone à Toulouse pour passer un petit peu à l'étage supérieur, enfin à la vitesse supérieure, d'un point de vue son, puis travailler avec un ingénieur du son un peu plus expérimenté à l'époque, donc c'était Bruno Milonas. Pour l'album suivant, là, on a vraiment eu l'occasion de choisir. Et puis bon, donc après discussion avec Guillaume, on s'est orienté vers Yves Jaget. Bon, je sais qu'on avait évoqué aussi Dominique Blanc-Francard à l'époque. Puis donc là, on arrive à l'album Enfantillage dont Guillaume a parlé. On avait à la base pas de budget vu que les ventes d'un album pour enfants habituellement, c'est en France, c'est quelque chose entre 3 000 et 4 000 exemplaires. Donc c'est très dur à amortir. Bon, puis bon, il se trouve qu'on a eu la bonne surprise par la suite, mais à l'époque on savait pas, on pouvait pas savoir à l'avance qu'on pouvait prendre un grand studio, quoi.
Mais justement, à partir du moment où un disque marche, le fait de prendre un grand studio, c'est pas un peu du snobisme?
Ça peut l'être, ouais.
Y a un confort aussi à travailler à la maison quelque part. Enfin, quand on est bon, après on peut pas tout faire à la maison. Je sais pas, une grande section corde, même une petite section corde si on n'a pas la pièce qui va bien, de même qu'une batterie. C'est pas des choses évidentes, mais pour les choses plus petites, enfin, vu qu'on travaille beaucoup en re-recording, hein, les voix, les guitares, c'est des choses qu'on fait de manière beaucoup plus conviviale et plus simple dans l'endroit qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire chez soi.
Alors j'ai des questions de Jean-Michel Vallée de Lyon qui demande la chose suivante. Le making-of de vos albums, vous y prenez-vous plus ou moins ou toujours de la même façon ou pas? Voilà.
Les making-of vidéo?
Non, dans la réalisation des albums, est-ce que vous avez toujours les mêmes méthodes de travail?
Jusqu'à Enfantillage, oui.
Oui, mais ça, tu as répondu un petit peu tout à l'heure.
Ouais, j'en explique. Ouais. Enfantillage, c'était plus collectif comme création, finalement. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on avait... qu'il y a eu cette espèce d'énergie sur le disque et qu'on n'avait pas forcément avant. Et je pense que ça a participé aussi à une certaine fraîcheur et tout. Même si on avait des moins gros moyens, du coup, on avait quelque chose de plus cohérent et de plus frais, je pense.
Oui, c'est vrai qu'on a creusé un peu plus dans le sens où avant, ça arrivait assez souvent qu'on fasse une prise, bon, on écoutait, c'est bien, bon, puis après on approche du mix, puis on commence à faire des edits dans tous les sens pour que ça soit vraiment bien, en vrai. Et plus on avance, plus on essaie vraiment de jouer les choses, en fait, et de les jouer ensemble. Donc c'est ça vraiment la démarche qui change, je pense, ces dernières
ouais,
années.
Ouais, c'est le plus important, parce que on peut prendre chaque piste, machin, et tellement les nettoyer, tellement les rendre propres, qu'à la fin le truc est complètement insipide, et c'est tellement beau que c'est plat, quoi. Donc du coup, il faut garder vraiment une sincérité, une spontanéité dans les prises, dans le moment et tout. C'est, enfin, moi j'ai vraiment ressenti ça avec Enfantillage, finalement.
C'est-à-dire, parce que là il y a la question suivante,
ils ont répondu à tout, là,
voilà. C'est-à-dire que vous enregistrez tous ensemble ou alors simultanément chaque voix, chaque
Truc c'est que
chaque instrument
on répète ensemble. Ça c'était assez nouveau sur Enfantillage, ce qu'on ne faisait pas avant. C'est-à-dire que moi j'arrivais avec les morceaux guitare voix, Christophe écrivait les arrangements, tout l'enregistrait, point barre. Donc du coup le morceau il était fabriqué,
il avait jamais été joué ensemble, en fait.
Mais voilà, il n'a pas vécu. Et du coup, là, la démarche, c'était de faire vivre les chansons, de les construire ensemble. Et du coup, ça devient une espèce d'entité, ça devient un truc cohérent, quoi. Et je pense que c'est vraiment important, cet élément-là, quoi.
Alors, en fait, vous faites comme les artistes américains. Il y a certains artistes américains qui créent de nouvelles chansons, qui vont les répéter, qui vont les jouer en concert. Et ce n'est qu'une fois qu'ils ont rodé la chanson qu'ils vont l'enregistrer.
Ouais, c'est important, ça. Puis même entre le début et la fin de la tournée, si on regarde les premiers concerts d'Enfantillage l'année dernière et aujourd'hui, après 200 dates, les morceaux ont pris des formes, quoi. Ils ont un peu changé, ils ont évolué, on est plus sûr de nous sur certains trucs. Moi, je réécoute jamais les albums et encore moins les lives, mais quand ça arrive, des fois, c'est étonnant, quoi.
Et là, concrètement, c'est vrai que sur Enfantillage, on n'a pas tout enregistré en même temps, mais on a au moins enregistré basse et batterie systématiquement en même temps, avec Guillaume qui faisait des fois une voix témoin, d'ailleurs, en même temps, pendant que les autres musiciens jouaient. Le reste, c'était fait en re-re, mais vraiment dans la foulée, dans la même journée. C'était une journée, un arrangement, un morceau. On filait comme ça. Pour le prochain album, j'aurais presque envie qu'on joue vraiment encore plus ensemble et qu'on garde le plus de choses possible, jouer ensemble dès le départ.
Cette voix témoin, est-ce que ça vous arrive de la conserver pour le final?
Ah ouais. Ouais. Moi, c'est déjà arrivé. Ouais.
Ah si, oui, c'est déjà arrivé, oui, effectivement.
Ouais, parce que sur les prises d'EF, finalement, on fait tellement attention à tout que encore une fois, ça peut rendre la prise plate, quoi. Et du coup, on n'arrive pas à retrouver l'énergie qu'il y avait dans la voix témoin et dans la maquette, quoi. Ce qui est quand même dingue.
Est-ce que vous pensez que vos chansons sont à l'image de vos différents états d'esprit dans votre vie, hein, Ou bien vous avez une espèce de signature récurrente avec les mêmes sentiments qui réapparaissent?
Ah, j'ai souvent des j'ai des thèmes que j'affectionne particulièrement, des choses que j'ai besoin d'exprimer et que j'aime bien décliner, comme par exemple le temps qui passe. C'est un truc moi qui me tient vraiment à cœur, auquel je pense tous les jours, et du coup ça engendre des chansons vraiment. Après je sais pas quelle est ma signature exactement, je saurais pas trop en parler, mais ouais, ou sur les rapports humains. Sur certains personnages, certains caractères, certaines fragilités chez des gens qui me touchent particulièrement, et du coup qu'on va retrouver un peu dans les chansons, quoi. Et puis j'aime bien essayer de garder une espèce d'enthousiasme et dans l'attitude et dans ce que je veux exprimer, même si je vais parler d'un sujet plutôt triste ou un truc un peu profond, un peu dur. J'aime bien garder une espèce de détachement et proposer une lecture un peu plus légère de ça, en fait, quoi. Voilà, c'est important. C'est une façon aussi de, pas de me cacher, hein, mais justement d'enfoncer le clou et de me dire, voilà, je pense vraiment ça, mais j'ai tellement de mal à le dire que je vais l'exprimer de cette façon-là parce que j'arrive pas à le faire autrement, mais je vais quand même envoyer mon idée, quoi. Mm-hmm. Sur des trucs durs, hein, sur la mort, sur l'absence, sur des choses comme ça, quoi.
Alors, autre question, donnez-vous libre cours à l'improvisation dans vos concerts?
Ah oui, je pense que... Ouais,
je
ouais, puis en même temps, avec
Christophe
les...
qui s'esclave.
Avec les enfants comme public,
oui.
Qu'on a quand même depuis 2 ans, là, en grande partie, on n'a pas vraiment le choix. Parce que, encore une fois, ils ont une telle énergie qu'il faut canaliser, que du coup, il y a toujours... on ne peut pas savoir comment ils vont réagir. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent pour la première fois assister à un concert. Ils ont chez eux l'album ou dans la voiture. Ils voient ce petit bonhomme sur le disque d'enfantillage. Ils savent pas trop ce que ça va être sur scène. Et d'un coup, ils voient 4 mecs qui arrivent, qui chantent des chansons. Il y a quand même beaucoup de sons. Nous, on a une approche. C'est pas du tout un spectacle pour enfants classique. C'est-à-dire que c'est un vrai concert avec du son, une scénographie particulière, des éclairages, des images projetées, des dessins et une vraie interaction avec le public. Donc, du coup, il y a l'élément théâtral. L'élément théâtre qui est très présent dans l'échange et tout ça. Donc du coup, eux, ils rentrent dedans tout de suite, assez vite, et ils répondent. Et du coup, il y a des interventions, des fois, il y a des trucs de fou, quoi.
Pour donner juste une indication comme ça, quand on est sorti de la résidence qu'on a fait, de la résidence du spectacle à Liévin, le spectacle durait 1h15, et maintenant, avec le même nombre de chansons, il dure entre 1h35 et 1h40.
D'accord.
Donc en fait, c'est ce qui se passe entre les chansons qui a beaucoup évolué.
ouais, parce qu'à chaque fois, il y a des choses qui arrivent comme ça, un peu par accident, et dans la composition, c'est pareil. Souvent, tout d'un coup, il y a un truc qui fait que c'est pas du tout ce qu'on avait prévu, mais c'est mieux finalement. Et du coup, on va garder ça dans l'échange avec le public, dans l'improvisation, dans ce qui va se passer entre les chansons. Moi, c'est le moment que j'affectionne particulièrement, et depuis le début, pour moi, c'est aussi important que la chanson finalement, ce qui va se passer entre les chansons. J'ai pas envie de faire un tour de chant comme sur un disque où on vient voir les chansons sur scène et qu'il n'y ait pas une autre dimension. Quand on va voir quelqu'un sur scène, il faut vraiment sentir proche de la personne et on va se dévoiler vraiment beaucoup plus que dans les chansons finalement. Enfin, c'est ce que moi j'ai envie de ressentir quand je suis spectateur et c'est ce que j'aime chez plein d'artistes, quoi. Et du coup, avec les enfants, ouais, il y a toujours des trucs dingues. Depuis quelques temps, je les fais monter sur scène pour qu'ils racontent un rêve. Ils racontent un rêve dont ils se souviennent. Et là, des fois, ça part en impro complet. Des fois, il y a 3 ou 4 enfants qui montent sur scène et puis qui dansent, puis qui restent sur scène. Les mamans qui viennent devant. Et puis, il y a des sketchs qui arrivent. Et puis, du coup, c'est à chaque fois, on se remet en jeu, quoi. C'est toujours très électrique, quoi.
Alors, on vous voit beaucoup plus souriant, là, ne serait-ce que de parler de ces concerts devant les enfants. On a l'impression que vous prenez beaucoup plus de plaisir que devant les adultes même.
Bah, c'est autre chose, c'est différent, on ne peut pas vraiment comparer. Bien que sur enfantillage, on a quand même une mixité dans les générations. On a les enfants, les parents, les grands-parents qui viennent nous voir.
Ça risque qu'on ait à peine un quart d'enfants dans la salle,
ouais.
Assez couramment.
Par exemple, l'Olympia, on a eu peut-être 2/3 d'adultes, quoi.
Mais ils ne montaient pas sur scène.
Non.
À la fin,
il y a eu pas mal d'enfants qui sont montés. Mais oui, après, c'est vrai que sur un répertoire adulte, c'est un peu différent, quoi. Mais je sais pas si j'ai vraiment une préférence. J'ai envie aussi de retourner au répertoire adulte. C'est ce qui va se passer prochainement. Là, on a monté au mois de janvier avec des artistes du cirque, deux cirques, un spectacle autour des 10 ans. Donc c'est un mélange de chansons du répertoire et de numéros de cirque, avec pas mal d'interactions entre tout ça, sous la direction de Bernard Cudelat, qui est le metteur en scène du Cirque Plume. Et du coup, voilà, c'est un spectacle qu'on va présenter à la rentrée, à l'automne. Là encore, c'est encore nouveau parce qu'il y a du cirque. Moi, c'est un vrai fantasme de pouvoir bosser dans cet univers-là. C'était un rêve de gosse et de me retrouver au milieu de numéros et tout. C'est encore un truc nouveau qui est absolument super épanouissant. Mais voilà, c'est encore différent d'enfantillage, c'est encore autre chose.
C'est amusant parce que quand je vous ai vu apparaître tout à l'heure, j'ai pensé à Bartabas du cirque Zingaro.
Ah ouais ?
Vous connaissez ce grand cavalier qui fait des spectacles équestres avec des atmosphères très particulières. Et quand je vous ai vu, d'un seul coup, j'ai eu un flash, là, Bartabas.
Ah ouais. Ouais, j'aurais bien aimé faire du cirque, hein, vraiment.
Bien, autre question, parce que je sais que vous avez participé à une émission de Michel Drucker. Quand je vois les émissions de Michel Drucker avec des musiciens, que ce soit des groupes de rock ou des chanteurs plus intimistes, j'ai toujours l'impression que ça doit être terriblement glaçant d'arriver dans une émission, de chanter sa petite chanson et de repartir. Comment vous l'avez vu, vous l'avez vécu ce...
Oui, il y a un côté un peu vitrine comme ça qui peut être difficile et qui n'est pas représentatif du travail de tout un chacun. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas l'impression que les gens aient pu avoir une idée de l'univers d'enfantillage en 3 minutes sur un plateau télé où on ne peut pas vraiment s'exprimer. C'est normal, mais en même temps, c'était une opportunité incroyable d'avoir cet accès-là, quoi. Et tant mieux. C'est vrai, quand on voit quelqu'un à la télé, dans une émission de télé, puis qu'on va le voir en concert, c'est presque autre chose, quoi. C'est presque complètement... Ça n'a rien à voir, quasiment, quoi.
Vous considérez-vous comme une bête de scène, pouvant jouer, par exemple, au Stade de France, ou faites-vous partie de ces chanteurs plus intimistes, qui préfèrent des salles plus petites, plus en contact avec leur public ?
Alors c'est un peu paradoxal parce que moi j'aime, en même temps j'ai pas vraiment eu l'occasion de jouer au Stade de France, mais sur Enfantillage et sur les dates précédentes, les tournées précédentes, on était plus dans des salles de je sais pas, 600
entre
en moyenne,
600 et 1000, ouais,
entre 600 moyenne, et 1000, et c'est une jauge qui je pense nous correspond. Et le côté intimiste m'intéresse pas spécialement, dans le sens où quand je suis sur scène, j'ai vraiment envie d'investir le plateau et d'emmener tout le monde dans le truc, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas envie de me cacher et d'installer une frontière entre ce qui se passe sur scène et le public qui regarde. Ça m'intéresse pas. J'ai vraiment envie de refoncer dedans, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment d'y aller et puis de déclencher des enthousiasmes autant que possible, quoi. C'est ça qui m'intéresse, quoi.
Donc le cas contraire, par exemple, de Daft Punk que nous avons reçu ici, qui sont, eux, plutôt déifiés, seuls sur scène tous les deux, et robotisés au maximum, avec 11 000 ou 20 000 personnes devant eux.
Ouais, bien sûr.
Ça, ouais. Je pense. Mm-hmm.
Très bien. Question, Christophe.
Oui, évidemment, c'est la fin, donc quelques
c'est
questions. Tu parlais tout à l'heure du plaisir que ça a été de jouer à l'Opéra Garnier. Qu'est-ce que ça fait quand on arrive devant l'Olympia et qu'on voit son nom en grosses lettres rouges ? Est-ce que c'est un plaisir aussi ? Est-ce qu'on s'y prépare et qu'on sait sans aucune prétention qu'on va un jour y passer ? Est-ce qu'on stresse ? Enfin, comment on est quand on arrive à l'Olympia et qu'on voit son
vraiment
nom ?
Sincère, moi, ça me faisait un peu flipper de regarder dans les yeux, de regarder cette enseigne et mon nom lettres rouges, ça me faisait un peu flipper, quoi. Donc du coup, je me suis pas étendu devant en me disant waouh, c'est génial et tout. Non, j'avais plutôt envie de baisser les yeux et de rentrer vite et tout. Mais par contre, c'est un vrai plaisir, cette salle, parce qu'elle est vraiment conçue pour le spectacle et pour avoir une proximité, vraiment, même si il y a je sais pas combien il y a de personnes, 2000 à peu près dans l'Olympia,
je sais plus,
en assis,
oui,
je crois que c'est ça,
en assis c'est 2200.
Il y a un côté cabaret, donc du coup c'est assez agréable, puis ça reste humain, quoi, par rapport à un Zénith ou certaines salles qui sont conçues un peu bizarrement. Je sais qu'il y a le Grand Rex aussi, dans lequel on avait joué en 2007. Le Grand Rex, psychologiquement, c'est assez difficile, je trouve, parce qu'il y a une espèce de balcon plongeant et on a l'impression qui est très pointu. On a l'impression, du coup, que le public qu'on a le public sur les épaules. C'est vachement bizarre, cette sensation, mais c'est une super belle salle aussi. Voilà. Après, voilà, j'ai jamais fait la tournée des Zéniths ou des salles comme ça. Il y a eu des occasions sur des gros festivals ou certains concerts. Après, je vais me comporter différemment dans une salle de 300 et dans une salle de 3000. Parce qu'on ne peut pas faire passer les mêmes choses. Dans une salle de 3000, il y a un côté plus rock'n'roll où il faut y aller peut-être plus à l'énergie que dans la chose, dans l'intimité, quoi, dans le truc. Il y a beaucoup de moments dans le spectacle où moi je quitte carrément le micro et je m'adresse aux gens sans micro, en vraiment poussant la voix pour justement essayer de les approcher et d'être vraiment au milieu, d'être dans la salle, quoi. Dans un zénith, ça c'est pas concevable, quoi.
Faire crier fort.
Ouais. Est-ce que le choix des chansons est différent suivant l'espace où vous chantez?
Oui. Le contexte, c'est-à-dire que sur un festival plein air, on va privilégier plutôt des morceaux festifs, plutôt énergiques, que dans un petit théâtre d'abonnés, avec un public d'abonnés, où ça va être un peu différent, quoi. Le public peut changer vraiment du tout au tout. C'est-à-dire quand on joue trois quarts d'heure dans un festival l'été à minuit, entre un groupe métal et un groupe ska, par exemple, du coup, on va plutôt privilégier un set un peu à l'énergie. Parce qu'on va arriver, tout le monde va être bourré, et du coup, il y a une écoute qui va être différente. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon, après, ça arrive moins, mais il y a eu comme ça des moments où on s'est dit, voilà, quel set on va faire ce soir? Il ne faut pas qu'on se plante, c'est vachement important, en fait. Par contre, on va commencer, essayer d'emmener tout le monde.
Christophe, plus de questions?
Plus de questions.
Plus de questions. L'actualité, quelle est-elle?
On se prépare une dépression nerveuse d'ici la fin de la semaine, parce que la tournée s'arrête dans 2 jours.
Oui.
Et après toutes ces dates, tous ces moments passés en communauté, dans le bus, tout ça, moi je pense que ça va être terrible. Et c'est vrai que c'est un espèce de truc qui s'arrête. C'est un peu comme quand on rentre de colonie de vacances, tu sais, quand on est gamin. Tout d'un coup, on se retrouve chez les parents. Et puis, pouf, une espèce de vide et tout. Il faut se réapproprier l'endroit, une autre façon de vivre et tout. Et moi, j'appréhende pas mal ça. On est tous un peu en train de flipper là-dessus en ce moment. Mais tant mieux, c'est bien.
On pourrait pas. Il y a d'autres projets aussi. Après.
Voilà, ouais. Il y a plein de choses qui arrivent. Des choses très différentes, puisque là, on va vraiment se retrouver en studio. Christophe va commencer à mixer le DVD, donc qui va sortir à la rentrée, Enfantillage. Qui va évidemment comporter la captation du concert. Des duos qui ont été filmés à l'Olympia. Le concert en intégralité à l'Opéra à théâtre à Besançon, et puis des bonus, puisque je vais réaliser un film, je pense un format de 52 minutes sur la tournée, puisque là j'ai à peu près 700 gigas d'images depuis le début, donc ça va représenter pas mal de boulot. Et puis il y a plein de petites choses, notamment des petites séquences vidéo qui s'appellent La Loge, qui sont une minute de vidéo improvisée qu'on tourne de temps en temps après les concerts avec des invités quand on en croise. Ça, vous pourrez le retrouver sur YouTube en tapant Aldebert La Loge ou Dailymotion, ou sur le Facebook.
D'ailleurs. Il y en a certaines qui sont...
Ouais, il y a des trucs assez marrants. Il y en a une chez Drucker notamment, et puis des rencontres comme ça sur des émissions de radio, ou des concerts ou des festivals. Et c'est toujours assez rock'n'roll. Ouais, des afters aussi qui ont été filmés et montés. Et voilà, donc ça aussi, ça fait partie de la tournée et de l'univers Enfantillage. Ça fait partie vraiment de cette aventure-là. Et donc, je finis un peu sur l'actualité. Donc, il y aura ce DVD qui sort à la rentrée. Il y aura un album, J'ai 10 ans, qui va être un album un peu singulier, parce que c'est ni une compile, ni un best-of, mais c'est un peu un album anniversaire dans lequel on a envie de proposer des inédits, des remixes et des versions des chansons très différentes. C'est-à-dire qu'on va enregistrer 3 ou 4 titres manouches. J'aime beaucoup le style jazz manouche. Et du coup, on a pas mal de copains qui travaillent dans ce style-là et qui sont vraiment dans cette culture-là. On va proposer aussi 1 ou 2 titres électro, pourquoi pas. Des nouvelles chansons, des chansons du live J'ai 10 ans. Et voilà, donc il y a ça. Et puis un nouvel album en préparation dont on commence à enregistrer les guitares-voix d'ici 2 semaines.
Il y a la tournée aussi qui va démarrer, la tournée J'ai 10 ans, avec une date à Paris notamment.
Le 20 novembre, voilà. Au Zénith. Bah, du coup, voilà, ça sera notre premier Zénith. Et du coup, je te dirai comment ça... Si ça...
Exactement.
Alors, je pourrais répondre à ta question plus en détail.
Exactement. Donc en fait, vous n'allez pas vous ennuyer tant que ça. Vous vous quittez pour 10 jours
la
et puis après, vous allez vous retrouver.
La dépression ne va pas pouvoir avoir lieu, là.
Ouais, ben bon, le côté de colonie de vacances...
Courage.
Ouais. Bah, écoutez, bonne route.
Bah, merci beaucoup de nous avoir reçus, en tout cas. Merci.
Au concert et à la suite. Et puis, on se reverra, de toute façon.
Avec
sans
grand
aucun
plaisir.
Problème. Bien. Christophe a quelques petites nouvelles à nous
J'en
dire.
J'en profite pour faire un peu de teasing et pour annoncer les rencontres de la création sonore édition 2010, organisée par notre camarade Gisèle Clark, qu'on avait déjà reçu, et son magazine Réalisation, qui se tiendra les 26 et 27 mai 2010, donc, à la SAE, l'école de son à Paris. Gisèle vient de publier le programme des conférences. Alors, je vous en donne quelques-unes. L'invité d'honneur cette année, ce sera Geoff Emerick, qui viendra nous parler de sa carrière, puisqu'il a notamment enregistré plusieurs albums l'album des Beatles, dont Sgt Pepper. On aura également une conférence avec une partie de l'équipe son qui a réalisé la bande son du film Gainsbourg, Une vie héroïque. Voilà, et puis également les deux directeurs techniques du studio British Grove à Londres, un studio dont le propriétaire est Mark Knopfler de Dire Straits, qui viendront nous raconter un petit peu comment fonctionne le studio. Le studio a 5 ans, donc ils vont venir nous parler un petit peu de la vie d'un studio, d'un gros studio comme ça, en 5 ans. Voilà, donc 26 et 27 mai 2010 à Paris, et le site, je crois, c'est www.rencontrecreationsonore.com. Voilà. Tout se retrouve sur Internet.
Très bien. Merci à Guillaume Aldebert d'être venu nous parler de ses créations, de ses compositions, de sa manière de voir les choses. Merci à Touf, bien connu sur les forums audio. Merci à Christophe également. Et puis, je vous dis à tous très bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Autre radio, autre culture. À bientôt. Autre radio, autre culture.